Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire quelques lectures pour comprendre la grâce de Dieu, pour comprendre la façon dont le Seigneur veut nous aider dans notre vie, veut nous sauver, veut nous transformer. Nous allons lire une histoire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Il s'est passé quelque chose de merveilleux ce jour-là pour une femme qui avait très très mal commencé la journée. On le voit plusieurs fois dans la Bible. Je parlais ce matin du brigand sur la croix. Vous ne croyez pas qu'il avait mal commencé la journée ? Fait le repentant, je parle. L'impie, il a mal commencé, il a mal fini. Mais le brigand repentant, il a mal commencé la journée et il a bien fini. Hein ? Il en va de même pour cette femme dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, des scribes et des pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent, ou qui t'accusaient, pardon ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. » Amen et ouf pour cette femme qui a eu l'immense bonheur de rencontrer le Seigneur. Vous ne croyez pas ? C'est vrai que la loi de Dieu était là, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, avec ses ordonnances, ses interdictions, ses commandements. Et aujourd'hui, il y a la religion aussi. Il y a la religion avec... pareillement, des préceptes, des commandements qui peuvent, à la longue, plus nous faire de mal que de bien. Et nous avons toujours le même Seigneur qui est vivant et qui veut communiquer sa grâce aux hommes. Et on peut poser la question, avez-vous affaire à une religion, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle d'ailleurs, ou avez-vous affaire à la grâce de Dieu ? Et nous allons voir cet après-midi, ou en quelques minutes, ça ne nécessitera pas le besoin d'être long, que le Seigneur, dans sa parole, nous le voyons écrire certaines choses. Et nous le voyons effacer certaines choses. Et c'est la question que vous devez vous poser. Ma vie est-elle écrite sur le livre de Dieu ? Mes péchés ont-ils été effacés ? Vous avez remarqué dans cette histoire que lorsque les pharisiens se sont manifestés pour éprouver Jésus, Jésus ne leur a pas parlé, juste il leur a dit que celui qui n'a pas péché, eh bien, il commence. Il s'est baissé et il a écrit par terre. Ça vous a jamais étonné ça ? Vous avez vu ? On l'a lu, hein ? Jésus, verset 6, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Voyez, verset 8, « Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. » Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi Jésus s'est-il baissé ? C'est quand même une drôle d'affaire, ça, vous ne trouvez pas ? Est-ce qu'il y a une leçon ? Est-ce que le Seigneur Jésus ne savait pas quoi faire ? Est-ce que vraiment, il y a quelque chose de sérieux là-dedans ? Eh bien, oui. On va lire un texte dans Jérémie, où justement, les pharisiens ont dû le comprendre. Croyez-moi, dans Jérémie, au chapitre 17, il y a une parole de malédiction, justement. dans Jérémie. C'est ce texte d'ailleurs dans Jérémie 17 qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Comme quoi on peut avoir une religion, serait-ce la nôtre, et malgré tout être loin de Dieu et avoir abandonné Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 12. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Vous avez vu ? Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, dit l'Éternel. Ces religieux, en fin de compte, ils n'en avaient que faire du péché de cette femme. Ce qu'ils voulaient, c'est éprouver Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, en fin de compte, n'en ont pas tellement à faire du péché des autres. Ce que beaucoup de gens voudraient, c'est régler leur compte avec Dieu. Et ça va être très 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 difficile. D'essayer de s'en sortir à bon compte avec Dieu sans avoir accepté sa grâce. Et nous voyons, nous allons voir dans notre texte, justement, un homme s'est moqué de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui se moquent de Dieu aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont religieux et qui se moquent de Dieu ? Ben oui, ça arrive très souvent. C'est pour ça que ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve, c'est Jésus-Christ le sauveur du monde. Alors on va aller dans Daniel. Dans le prophète Daniel, il y avait un roi qui n'a pas réalisé qu'il ne fallait pas se moquer des choses de Dieu. Et il a fait la fête. Et il a aggravé, une fois qu'il avait bu, il a aggravé son attitude. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs à cause de l'alcool. Daniel chapitre 5, il a utilisé les vases du temple. Donc il a profané les choses de Dieu. Daniel chapitre 5 verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand, au nombre de 1000. C'est du monde ça. Vous avez déjà invité 1000 personnes à la maison ? Non ? Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem. Vous voyez, il a voulu faire le beau, comme on dit. Il a voulu faire le malin. Il a voulu montrer que son père, il avait fait la guerre aux Juifs, à Israël, et qu'il s'était emparé de leur trésor. Vous voyez, c'est l'orgueil. Afin que les rois et les grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Vous voyez, quand on commence à profaner les choses de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Verset 5. « En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Voyez le repas, comment ça a tourné ? On va faire revenir le prophète Daniel. Et regardez ce qui se passe. On va lire à partir du verset 18. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. » Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Regardez bien le verset 22. « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée, divisée, et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 30, cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Il savait ces choses et il n'en a pas tenu compte. Et lorsque Dieu a dû écrire, c'est ce qu'on a lu dans Jérémie, la condamnation est venue sur lui. La main de Dieu qui écrit. C'est quelque chose, la main de Dieu qui écrit. La main de Dieu qui marque certaines choses, qui prépare certaines choses. Et si Jésus s'est abaissé, c'est pour rappeler une grande vérité, c'est que la loi, le légalisme et tout ce que vous voudrez, la religion, n'amène pas la grâce. Le seul qui amène la grâce, c'est Jésus. Et il est vivant, et il est ressuscité, et il règne, et il connaît votre cœur, et il sait où vous en êtes. Peut-être que vous êtes écrasé par la religion. Vous savez, les gens souvent nous le disent. Moi, la religion, j'étais fidèle à la religion, mais elle ne m'a pas apporté le pardon. Elle ne m'a pas apporté la paix. Elle ne m'a pas apporté ce dont j'attendais. Elle m'a apporté de la communion fraternelle, car j'avais des amis qui avaient la même religion que moi, mais je ne connaissais pas la grâce du pardon. Jésus a écrit avec son doigt sur la terre pour nous enseigner que la religion ne peut pas nous bénir. Elle ne peut que nous condamner. C'est vrai? Qui peut obéir à Dieu sans la grâce? Qui peut obéir à Dieu sans la grâce de Dieu? Qui peut obéir? Il y a quelqu'un qui peut obéir? Personne. Personne ne peut obéir. Ce n'est pas possible. On ne peut faire les choses qu'avec la grâce de Dieu. On en parlait avec Monsieur de Dieu tout à l'heure dans le hall à côté. On parlait que quand on s'est converti, qui c'est qui nous a donné les victoires? C'est la grâce de Dieu. Qui c'est qui nous a amené à être délivrés de tels liens, de tels vices? C'est pas la grâce de Dieu. Nous essayions bien avant et nous n'y arrivions pas. Mais la grâce de Dieu l'a fait. Et cette femme, c'est vrai que bien sûr, elle méritait les conséquences de son péché. Elle a failli y passer. Mais le Seigneur était là. Et j'aimerais vous dire que cet après-midi, le Seigneur, il est là. Et qu'est-ce que vous voulez que Dieu écrive sur le mur de votre salle à manger ou sur le mur de votre cœur? Il y a écrit dans le Nouveau Testament que Dieu écrira sur notre cœur son alliance, ses lois bénies. Qui est-ce qui est écrit sur votre cœur? Avez-vous envie que Dieu écrive sur votre cœur ce genre de paroles? Est-ce que vous avez envie que Jésus écrive, ben, t'as été pesé dans la balance et t'as été trouvé léger? C'est ça que vous avez envie? Ces rois, ils savaient. Vous savez, ils savaient. On l'a lu. Toi, Belshazzar, tu savais ces choses. Tu le savais. Et tu n'en as pas fait attention. Tu n'as pas humilié ton cœur. Et il pensait, comme son père était roi, vous savez, les rois, ils ont le pouvoir de vie, de tuer les gens. Vous savez, c'est écrit, hein, on l'a lu. Les rois sont parfois, mais on le voit avec ce qui se passe dans certains endroits du monde en ce moment. Vous avez vu, c'est des véritables... Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu ce qui se passe? Et que l'on soit un roi ou que l'on soit un clochard, il faut que l'on se prépare à rencontrer Dieu. Et souvent, nous croyons que nous pouvons nous permettre de faire comme nous voulons. Ce texte nous rappelle qu'un roi, qu'une prostituée, que tout le monde passera devant Dieu. Cette pauvre femme, je ne sais pas si c'était une femme riche ou pauvre, ça n'a pas d'importance. Mais elle a été confrontée à Jésus-Christ et que la religion voulait la détruire, le Seigneur Jésus lui a fait grâce. Oui, le Seigneur est capable d'écrire des choses, des paroles de condamnation, et le Seigneur, comme nous le chantions tout à l'heure, est capable d'effacer cette même condamnation. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et on va lire un autre texte où nous voyons justement que Dieu a le pouvoir d'effacer toute notre condamnation. Ce n'est pas une bénédiction, ça ? Le Seigneur a le pouvoir d'effacer. Vous voyez, le pouvoir d'écrire. Quand on s'y attend le moins, parce que je ne pense pas que ce roi, à ce moment-là, qui contrôlait la fête, vous savez, il y a des gens, ils s'imaginent qu'ils contrôlent tout. Je contrôle tout. J'ai fait mon examen de santé. Je suis en bonne santé. Est-ce que parce qu'on est santé, est-ce qu'on est en bonne santé, est-ce qu'on va vivre longtemps ? Est-ce que parce qu'on est malade, on va mourir ? Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont malades, ils sont toujours vivants. C'est pas vrai ? Il y a des gens, ils sont en bonne santé, ce soir, ils seront morts. Est-ce que j'exagère ? On ne contrôle rien, en fin de compte. Il faut faire très attention. Mais notre vie, c'est Dieu qui la tient. Toute la Bible nous enseigne que le souffle de notre vie, il est entre les mains de Dieu, que c'est lui qui donne la vie et que c'est lui qui la reprend. Et pour que ça se passe bien, il faut que nous comprenions ce rendez-vous comme cette femme qui a dû rentrer à la maison. Vous croyez qu'elle est heureuse quand elle est rentrée à la maison ? Lui, il ne m'a pas lapidée. Lui, il ne m'a pas détruite. Il m'a pardonnée. Voilà comment Dieu veut que nous rentrions chez nous, avec le cœur pardonné. Car je crois que la chose la plus importante sur la terre, c'est pas d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Le plus important sur la terre, c'est d'avoir obtenu le pardon de ses péchés par la grâce de Jésus-Christ. Regardez avec moi ce texte dans les Colossiens. Dans les Colossiens, il nous est dit ce qu'il se passe lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons une nouvelle créature, comme on l'a chanté. Qu'est-ce que c'est la croix ? Parce que beaucoup de gens sont incapables de comprendre la croix. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ? Est-ce que c'est les Juifs qui l'ont crucifié ? On entend souvent. Tous les ans, à Noël, il y a des sondages, il y a des questionnaires, il y a des débats. Est-ce que ce sont les Romains, comme on l'entendait tout à l'heure ? Est-ce que ce sont les Romains qui ont crucifié le Christ ? Est-ce que c'est la religion officielle de l'époque qui a crucifié le Christ ? Alors, qui c'est qui a crucifié le Christ ? C'est notre péché. La Bible est claire, c'est nous qui l'avons crucifié. Colossiens chapitre 2, verset 14. Voyez, il est capable d'écrire, oui, lorsqu'on se détourne de lui, il est capable d'écrire des choses sévères. Mais regardez ce qu'il est capable de faire lorsqu'on se tourne vers lui. Il a effacé, donc il parle à des chrétiens qui se sont convertis, qui ont donné leur cœur à Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a fait. Lorsqu'un homme se tourne vers Jésus, ses péchés sont effacés. C'est David. David, il connaissait Dieu. Et quand il a péché, justement, dans le psaume 51, à deux fois, il va dire « Efface mes transgressions, efface mon iniquité. » Est-ce que Dieu l'a fait ? Est-ce que Dieu l'a fait ? Eh oui, il l'a fait. Parce qu'il connaissait le pardon de Dieu. Heureux l'homme qui comprend que Dieu pardonne. Heureux l'homme qui croit au pardon. Heureux l'homme qui est capable de dire « Seigneur, efface mes péchés, efface mes transgressions, efface mes iniquités. » Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Tous les hommes ont péché. Et c'est une prière qu'il faut faire. Si nous voulons être pardonnés, il ne faut pas changer de religion. Un jeune homme me disait dernièrement, moi je viens dans votre église parce que j'ai l'intention de changer de religion. Mais j'ai dit, ce n'est pas la peine. Ne changez pas de religion, ça ne sert à rien. Mais si je cherche une bonne religion, j'ai dit, il n'y a pas de bonne religion. Est-ce qu'il y a une bonne religion ? Non, il n'y en a pas. Et c'est vrai ce que je vous dis. Et il m'a appelé encore il y a une quinzaine de jours. J'ai dit, mais ne changez pas d'église pour changer d'église. Il faut que vous changiez de cœur. C'est pas parce qu'on passe de telle religion à telle autre qu'on est devenu une nouvelle création. Il faut passer des ténèbres à la lumière. Il faut passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il faut passer des ténèbres vraiment à la lumière. Comment ? En nous repentant. Toute la Bible enseigne une chose, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit l'apôtre Paul et Jésus lui-même, quand ils ont commencé leur ministère, ils ont tous commencé avec la même prédication, « Repentez-vous ». La repentance, c'est de dire « Oui, je ne suis pas du bon côté, je suis dans les ténèbres, je suis perdu, je mérite que sur le mur de mon cœur soit écrit « T'as été trouvé léger ». Et si les gens n'ont pas Jésus, ils sont tous légers de toute façon. Vous ne le croyez pas ? Qu'on fasse les festins ou pas, ça n'a aucune importance. Si Jésus n'est pas sur le côté de la balance avec nous, on va être trouvé léger. Il a été pesé, mais imaginez-vous, si sur le côté de la balance, vous êtes avec le Seigneur Jésus, vous n'allez pas être léger. Moi, je vous le dis. Vous ne croyez pas ? On fait le poids quand on est avec le Seigneur Jésus, du bon côté de la balance. Eh bien, c'est quand même la vérité, l'image et l'escalier, mais c'est quand même la vérité. Le Seigneur, il veut effacer les transgressions, il veut effacer les péchés, il veut effacer nos iniquités, et il le fait. Bien sûr qu'il ne faut pas s'amuser avec le péché. Jésus n'a pas dit à cette femme, je ne te condamne pas, mais je ne te condamne pas. Il a dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et je crois que le Seigneur a le pouvoir de nous amener à vivre ce qu'il nous demande. Quand Dieu nous dit ne pêche plus, je crois qu'il nous donne la grâce de ne plus pécher. Et si l'on commet un péché, il nous accordera la grâce de le réparer. Si quelqu'un a péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Oui, dans Ésaïe, il s'est écrit, j'efface tes transgressions comme un nuage. Est-ce que c'est bien d'avoir son péché effacé ? Est-ce que vous pouvez dire cet après-midi, oui, il a effacé la condamnation ? Heureux êtes-vous si vous pouvez dire oui, je sais que le jour où je me suis approché de Jésus-Christ, il a effacé ma condamnation et il m'a gravé sur ses mains. On va lire un texte quand même qui est merveilleux. C'est dans Ésaïe 49. Dans ce livre, il est beaucoup parlé de l'œuvre de Christ et de la façon dont il est mort sur la croix pour nous pardonner. C'est le chapitre 53 qui est la clé de voûte, mais Ésaïe 49 nous rappelle une vérité que nous comprenons une fois que la croix est passée. Ésaïe 49, verset 14, « Si on disait, donc c'est Israël, c'est le peuple de Dieu, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Ça vous est déjà arrivé de dire ça, le Seigneur m'a oublié ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà dit ? Oui, ça arrive. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, car hélas c'est arrivé, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Et voyez, il y a cette histoire du fait que notre péché peut être effacé, que dans les mains percées du Seigneur Jésus-Christ, il a introduit l'idée de nous avoir avec lui. Pourquoi ses mains ont-elles été percées ? Pourquoi ses pieds ont-ils été crucifiés ? Pour nous donner la grâce et le pardon. Souvent à Noël, les gens ils fêtent la naissance du Christ, la naissance de Jésus, mais ils ne réalisent pas que la naissance de Jésus n'a de sens que si on voit toute l'œuvre de Jésus-Christ qui va jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Et le Seigneur dit, en préparant donc son œuvre, « Je t'ai gravé sur mes mains, car la crucifixion donne aux hommes la possibilité d'avoir leur péché effacé. » C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Romains, « Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont pentecôtistes, évangéliques, catholiques. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui vont à l'église tous les dimanches. Pour ceux qui se promènent avec la Bible sous le bras, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus qui le donne. C'est pour ça que dans l'enseignement sur le baptême, on rappelle ce verset quand il est dit, mais celui, quand Jésus dit, celui qui, on va le lire, lisez-le avec moi dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, Jésus dit quelque chose d'important. Parfois, on me dit, mais est-ce que c'est important la confession publique ? Alors, est-ce que c'est important ? De confesser publiquement. Ben oui, il en est parlé plusieurs fois, même dans l'Apocalypse. Matthieu chapitre 10, verset 32. Le Seigneur parle de la déclaration publique, de la confession publique. C'est pourquoi, verset 32, quiconque c'est ben, n'importe qui, se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Ce verset, moi je l'ai souligné en rouge, parce que pour moi c'est une parole extraordinaire. Voilà ce qui se passe. Là on n'est pas léger. Là, on est dans le bon côté de la balance, et je peux vous dire, excusez-moi l'expression, mais on fait le poids. Quand le Seigneur Jésus est à côté de nous, on ne sera pas trouvé léger. Celui qui me confessera publiquement, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur le dit, oui, celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Alors qu'est-ce qui a gravé sur votre cœur? Il y a peut-être une parole que vous ne savez même pas. Jésus a dit un jour aux apôtres qui revenaient d'une mission pleine de succès, ils étaient heureux, ils se sont approchés, « Seigneur, Seigneur, tu sais pas, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils étaient tout excités et Jésus les a calmés, il leur a dit « Ne vous réjouissez pas du résultat. » Parce que le résultat, de toute façon, ça vient, enfin je paraphrase un peu, le résultat, ça vient, ça va. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et voilà ce que Belshazzar aurait pu faire. Est-ce que Belshazzar, tout roi qu'il était, aurait pu humilier son cœur? Oui. Son père, Nebuchadnezzar, il a été prévenu par Dieu. Il n'a pas été prévenu. Il lui a dit, mais arrête, et ton bonheur pourra se prolonger. La volonté de Dieu, quand il nous parle, c'est pas pour nous écraser, c'est pour nous bénir. Et Nebuchadnezzar, malgré le fait qu'il ait fait certaines choses à Israël, eh bien Dieu voulait le bénir parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Bon, ça nous dépasse un peu. Mais Dieu avait dit à cet homme, ton bonheur pourra se prolonger. Et puis il n'en a pas tenu compte. Et il est devenu comme une bête jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui est Dieu. Et que c'est lui qui tient nos vies dans sa main. Et que c'est lui qui a le pouvoir de nous relever, de nous changer. Oui, il est mort sur la croix pour que nos péchés soient effacés, pour que nos transgressions soient effacées, pour que lorsque nous commettons un péché, nous puissions dire comme le roi David, efface mes transgressions, ne te souviens pas de mes iniquités. Je comprends pourquoi le psaume 32 commence par la fin. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. David, il commence par la fin. Il n'en peut plus, il est obligé d'exprimer la joie qu'il a d'avoir ses péchés effacés. Vous savez que quand on a chanté la dernière strophe, c'est Jésus par ton sang précieux. C'est pas tout le monde qui peut le chanter. Je ne sais pas si vous réfléchissez, mais la dernière strophe, c'est pas tout le monde qui peut la chanter. Ne peuvent chanter la troisième strophe que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous repentir, de nous convertir. Il le dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Ce qui efface nos péchés, c'est la repentance et la conversion. C'est pour ça que la Bible insiste si souvent. Parfois, les gens nous disent, mais pourquoi il faut se convertir? Eh bien, parce que si on ne se repent pas, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui sauve, même le baptême par immersion. Ce qui sauve, c'est vraiment la repentance. Oui, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et je termine avec ce texte du psaume 32, où David dit ceci, « Tu as effacé la peine de mon péché. » Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur écrira des paroles sévères pour tous ceux qui ne tiendront pas compte. C'est terrible d'entendre certaines paroles dans la Bible, car la Bible parle de la condamnation éternelle. C'est Jésus qui en parle. Un jour, quelqu'un me disait, « Mais Jésus ne parle pas de l'enfer. » Je dis, « Mais vous n'avez pas lu les évangiles. » Par exemple, 12 fois, il est parlé de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. 11 fois, c'est Jésus qui en parle, dans tout le Nouveau Testament. Sur les 12 fois, c'est Jésus qui en parle, 11 fois. Pourquoi? Eh bien parce que la vie sur terre est le seul moment où l'on puisse accepter ou refuser Jésus-Christ. Où on accepte Jésus-Christ et tout est effacé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on peut chanter la dernière strophe du dernier cantique que l'on a chanté tout à l'heure, ou alors on ne chantera pas beaucoup. Belshazzar, la nuit même où lui, il décidait de tuer, de faire revivre, il croyait qu'il était Dieu sur terre, comme tous les despotes qui ont existé. Mais à un moment donné, Dieu est capable de dire « Stop, stop. Ceux qui abandonnent Dieu seront inscrits sur la terre. »
Vous voulez être inscrit sur la terre ou être inscrit dans le ciel? Votre nom est-il inscrit dans le ciel? Vous savez que dans le ciel, il y a des registres. De toute façon, il faut des papiers partout. C'est pas vrai? Il faut des papiers partout. Vous voulez faire quelque chose, il faut des papiers. Alors, c'est normal qu'il y en ait dans le ciel. Je ne sais pas si c'est des CD-ROM, je ne sais pas si c'est des parchemins. Comment ils sont les papiers dans le ciel? Vous le savez? Non. Est-ce que c'est important? Non. Ce qui est important, c'est que dans ces papiers, dans ces cahiers, dans ce livre, il y ait votre nom. Est-ce que c'est important? Tiens, est-ce que c'est... Eh ouais. Est-ce que vous... Mais c'est ça. À quoi ça sert un passeur? C'est à vous aider, à vous préparer à rencontrer Dieu. Il faut pouvoir dire cet après-midi, oui, je ne suis pas parfait, ça ne va pas trop, mais j'ai accepté Jésus-Christ. Son sang m'a lavé. Son sang a effacé mon péché. Voilà pourquoi le sang de Jésus a de la valeur. Voilà pourquoi la Bible parle du sang de Jésus comme un sang précieux, qui n'a pas de prix. Est-ce que c'est le cas pour vous? C'est pour ça qu'on ne peut pas être sauvé par l'or, par l'argent, mais par le sang du Seigneur. On va fermer les yeux quelques instants. C'est important que vous puissiez répondre, que vous puissiez dire, oui, je sais que si je meurs, j'irai au ciel. Il est mon sauveur. Il m'a pardonné. Il a effacé. Moi, je ne suis pas inscrit sur la terre. Je suis inscrit dans les cieux. Voilà ce qui se passe lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Le nom d'un homme est écrit dans le livre de vie. On va prier le Seigneur. Et on va faire un appel pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Cette femme avait besoin de la grâce et du pardon. La religion officielle, qui était la meilleure de l'époque, voulait la lapider. Jésus l'a libérée. La religion, elle fait que condamner. Jésus-Christ y gracie les hommes. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole et ce que nous voulons, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Nous ne voulons pas être inscrits dans la poussière, sur la terre, sur cette terre maudite. Nous voulons être inscrits dans les cieux. Nous ne voulons pas que la main de l'Éternel écrive une parole de condamnation. Nous voulons que la main de l'Éternel grave l'alliance d'amour et de paix qui a coulé au calvaire. Seigneur, nous te bénissons. Oui, nous te bénissons. Et nous te prions de conduire ce moment de prière, ce moment d'imposition des mains, afin que quelqu'un puisse faire la paix avec toi, puisse obtenir la guérison, la délivrance. Et combien nous imaginons la façon dont cette femme est rentrée chez elle, libérée, pardonnée, à cause de ta présence. Oui, merci Seigneur pour cette histoire qui nous est rapportée dans les évangiles, qui nous montre combien tu es toujours capable d'effacer les ordonnances qui nous condamnaient par ton sang précieux. Merci Jésus.